Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de retracer l'histoire de Jeanne Siofachin qui est psychologue clinicienne et surtout connue pour avoir travaillé d'abord sur les enfants dits surdoués, puis plus globalement sur les profils de haut potentiel, entre guillemets. Elle est l'auteur de plusieurs bouquins sur le sujet, notamment le très connu « Trop intelligent pour être heureux » et l'inventrice du fameux terme « zèbre », mais ça c'est moi. Elle raconte d'ailleurs les circonstances de cette trouvaille qui est venue beaucoup plus spontanément qu'on pourrait le croire. Ensemble, on discute de son chemin vers la psychologie, alors qu'elle avait créé son entreprise d'événementiel dans les années 90, jusqu'à son travail avec des enfants surdoués au début des années 2000, alors qu'à l'époque, on en parlait vraiment très peu. Un grand merci à Jeanne pour sa confiance. D'ailleurs, petit spoiler avant de commencer, mais Jeanne est ma psychothérapeute depuis 3 ans maintenant. Comme ça, voilà, vous le savez, même si ça n'a strictement rien à voir avec le fait que je l'interview aujourd'hui. Cette semaine, moi de mon côté, j'ai besoin de vous pour 2 trucs. Le premier, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous enverrai tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes épisodes de podcast. Le deuxième truc, c'est que si vous avez 2 minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac, mettez donc une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcasts à Histoire de succès, ça l'aidera à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Enfin, si cet épisode vous a plu, ça serait vraiment cool que vous en parliez à quelqu'un qui ne connaît pas ce podcast et de faire tourner l'épisode. C'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle Histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, venez mettre un commentaire sur www.histoiredesuccès.com et si l'interview vous a plu, parlez-en autour de vous. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Jeanne. Merci à vous et à la semaine prochaine. On est avec Jeanne Siofachin. Salut Jeanne.
Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Ne crie pas dans la... Tu es folle.
C'est ça qui me caractérise.
Ouais, ok. Jeanne, tu es, pour dire à tout le monde, tu es ma thérapeute. Je pense qu'il faut le dire aux gens.
Tu peux le dire, mais je préfère que tu dises psychothérapeute.
Psychothérapeute.
Non, mais c'est important. Parce que thérapeute, c'est un titre qui n'existe pas. C'est-à-dire que tout le monde peut s'autoproclamer thérapeute.
Ah, okay.
C'est absolument pas protégé. Alors que psychothérapeute, c'est un titre protégé. Alors ça ne veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. C'est juste que ce n'est pas tout à fait la même catégorie.
Et toi, tu es psychothérapeute.
Moi, je suis psychologue.
Psychologue, clinicienne.
Oui.
T'as vu ?
Et psychothérapeute. C'est-à-dire que ça veut dire... Non, mais c'est important parce que quand on dit un psy ou un thérapeute, pour les gens, c'est tout à peu près pareil. Or, c'est vraiment pas pareil. Tu as d'un côté les médecins qui sont les psychiatres, qui sont là pour les maladies psychologiques, les maladies psychiatriques. Donc, ils ont une formation médicale.
Ouais.
Après, tu as les psychologues qui ont une formation universitaire et tu es diplômé au bout de 5 ans et tu dois être enregistré comme psychologue. Et ensuite, tu es ou pas psychothérapeute. Et psychothérapeute, c'est encore un autre diplôme qui est reconnu par l'État. Après, tous les psychopraticiens, les thérapeutes, etc., tout le monde peut visser sa plaque en disant qu'on est thérapeute en énergie, thérapeute en dynamique de vie, et puis toute la flopée des coachs avec des formations sérieuses et puis des formations totalement farfelues.
Moi,
je suis psychologue et psychothérapeute.
Voilà.
Et voilà.
Comme ça, c'est... T'es aussi la fondatrice du cabinet Cogitose.
Oui, mais ça c'est un projet. C'est un projet qui date de 2002 à peu près, avec cette idée, cette envie qui était de créer vraiment un centre de psychologie généraliste. C'est-à-dire que je considère que la psychologie est au centre du process et qu'effectivement c'est avec la psychologie que on peut approcher tous les besoins qu'on peut avoir, c'est-à-dire que quand on va pas bien, parce que bon, en général, quand on va voir un psychologue, c'est qu'on va pas bien, ou en tout cas qu'on a des questions ou des doutes et qu'on a besoin d'avoir des réponses, un éclairage et quelque chose de l'ordre d'un débroussaillage presque par quelqu'un d'extérieur et quelqu'un qui a les compétences pour ça, et que ensuite c'est à la psychologie de déterminer si la personne qu'on appelle dans mon métier le patient a besoin, par exemple, d'aller voir un médecin parce qu'il y a quand même des choses qui relèvent plutôt de la médecine. racine et de la nécessité d'un traitement, ou d'aller voir si c'est un enfant, un orthophoniste, parce que finalement, la difficulté est plutôt autour de l'acquisition du langage. Donc, il va être cette plateforme. Le psychologue, finalement, son job, c'est d'avoir une connaissance approfondie de la psychologie humaine et de tout ce qui est développement normal et développement pathologique de la personnalité, et de pouvoir déterminer quels peuvent être les bons interlocuteurs pour les questions ou les difficultés que rencontre cette personne-là à ce moment-là de son histoire. Et ça, vraiment, ce que je trouvais hyper important, et je ne comprenais pas pourquoi ça n'existait pas, en fait, c'est de me dire, en fait, il faut un centre de psychologie généraliste, donc avec des psychologues, et que des psychologues qui travaillent dans ce centre, et qui puissent être une plateforme où on reçoit les patients qu'ils aient 5 ans ou 105 ans, avec lesquels on va faire un point, on va faire un bilan, on va dresser une carte du territoire pour savoir comment il faut avancer avec cette personne-là. Et si c'est dans nos compétences, on va aider cette personne-là. Si c'est hors les clous, à ce moment-là, on va l'adresser ailleurs. Mais avec cette idée qu'on pourrait avoir finalement un psychologue de famille comme on a un médecin de famille. Vraiment cette notion
de... Ou un dentiste de famille.
Oui, cette notion de généraliste, parce que c'est vrai qu'en plus, moi, dans ma conception de la psychologie, je trouve ça assez étrange de considérer que si on voit un père ou une mère, on ne doit pas voir un enfant, que si on voit un frère, on ne doit pas voir la sœur et la cousine germaine, alors que dans le fond, moi qui ai souvent vu plusieurs personnes de la même famille, que ce soit les enfants ou les parents, je trouve que on a un effet de contexte et on va beaucoup plus vite. Et c'est, on mélange pas tout, c'est-à-dire qu'on va pas trahir, bien évidemment, les difficultés ou les particularités de tel ou tel membre de la famille. Mais en même temps, on a une visibilité sur le fonctionnement général qui permet d'accélérer les process. Donc moi, je trouve que c'est important, cette notion de généraliste.
Ok. Donc, tu as créé ça en 2002.
Oui.
On va revenir un petit peu après à tout ton parcours, mais il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est à quoi ressemblait Jeanne quand elle avait 7 ou 8 ans ?
Eh bien, si je peux dire toute la vérité, rien que la vérité.
Tu es ici pour dire ça.
Mais j'en sais rien. Et c'est vraiment une question que je me pose très souvent. Okay. Alors, mes parents sont morts tous les deux. Et en fait, j'en sais rien. Et souvent, je me pose la question... Parce que je crois que quand j'étais enfant, je me posais pas beaucoup de questions. En fait, je vivais ce que j'avais à vivre sur le moment. Mais tu vois, je me souviens même pas m'être posé la question de qu'est-ce que je vais faire plus tard ou d'avoir des espèces de rêves en me disant quand je serai grande. J'ai aucun souvenir de ça. Je crois que j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'instant présent. Avec très peu de projections. Donc, je ne sais pas. Ce que je sais de moi, c'est que j'étais une petite fille assez indépendante, assez volontaire, assez casse-cou. Mais en même temps, je pouvais passer de longs moments à traîner, à rêvasser. Je lisais énormément, ce que je continue à faire aujourd'hui. Mais je n'ai pas de souvenirs. J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance en réalité.
Tu sais à quoi c'est dû ?
Non, mais d'abord, je rencontre beaucoup de gens qui n'ont pas forcément souvenir d'enfance.
C'est pas une maladie.
Et la psychologie a beaucoup voulu en faire quelque chose d'un peu troublant. Et comme si on avait mis en place des mécanismes pour ne pas se souvenir, pour mettre à distance. Mais je crois que ce n'est pas aussi basique ou aussi simpliste que ça. Je pense qu'on a chacun des parcours et que... En fonction de l'enfance qu'on a eue, eh bien, l'enfance devient un poids où finalement l'enfance est quelque chose d'assez fluide. Et moi, je pense que mon enfance a été, enfin, je suis sûre que mon enfance a été quelque chose d'assez fluide. Et bien sûr que j'ai des souvenirs, mais j'ai des souvenirs qui n'ont pas de sens continu. Je ne peux pas dire, tiens, je suis comme ça aujourd'hui parce que quand j'étais enfant, j'étais dans telle ou telle situation. Non. Et je n'avais pas du tout l'idée une seule seconde que je serais psy un jour. D'ailleurs, je n'ai pas toujours été psy.
T'as fait quoi justement ? Parce que donc t'as collège-lycée, j'imagine ? Comment ça se passe tes années collège-lycée ?
Ben d'abord, moi j'ai été élevée chez les sœurs, quand même.
Je savais pas.
Mais oui, j'étais élevée chez les sœurs, j'allais à la messe toutes les semaines, je me confessais de tous mes péchés, donc c'était formidable. J'étais très libérée, délivrée. Et donc, je suis arrivée à l'adolescence, mais complètement, voilà, pardonnée de tout. Voilà. Avec, avec l'absolution complète. Donc, pouvait arriver. C'est vrai,
C'est-à-dire que tu le vivais vraiment comme ça?
Non, je le vivais. Ben, pour moi, tu vois, une fois encore, je ne me posais pas de questions. C'est-à-dire que pour moi, j'étais chez les bonnes sœurs parce que j'habitais dans une ville de province qui était Avignon. Mmh. Pour moi, Avignon, c'était le centre du monde. Je ne me posais même pas la question de savoir s'il y avait d'autres villes qui pouvaient être plus ou moins intéressantes qu'Avignon. Moi, j'étais à Avignon, c'était ma vie, point. J'allais chez les bonnes sœurs parce que c'était tradition familiale. J'avais ma petite jupe bleu marine plissée et mon petit calot sur la tête pour aller à la messe. Une blouse rose une semaine, une blouse bleue l'autre semaine pour être sûre qu'on lavait les blouses entre-temps. Mais je ne me posais pas, tu vois, c'était naturel pour moi. Je me disais pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je me posais pas ce genre de questions. Et donc je suis arrivée effectivement au lycée, et ça a été assez particulier parce que au moment où je suis arrivée au lycée, je suis allée chez les jésuites.
C'est encore
une aventure incroyable parce que c'était la première année où le collège de jésuites devenait mixte. Et donc c'était la première année où les frères et les pères jésuites recevaient des filles. Et c'était la première année pour moi où j'allais être en classe avec des garçons. Donc à 14 ans, en entrant en seconde, j'étais en classe avec des garçons. Ce qui était tout à fait révolutionnaire. Mais c'était une époque magique, hein, où on fumait dans la cour de récré. Et c'était quand même très très fun. On faisait de la mobilette sans casque. C'était quand même des époques... c'était des époques sympas. Voilà. Donc j'étais chez les jésuites, j'ai adoré ce moment-là. Donc évidemment, je passais mon bac. Avec zéro idée de ce que j'allais faire. Et je pense que, comme on était dans une époque où on se préoccupait de savoir ce qu'on allait faire après les vacances, parce qu'il ne faut pas exagérer, on n'allait pas avant le bac se poser ce genre de questions très saugrenues qu'on demande maintenant aux ados à 12 ans, ouais. À 13 ans, et qui sont comme ça enfermés dans Parcoursup, peu importe le nom, mais où il faut faire des choix et on ne peut pas revenir en arrière. Enfin, je trouve ça très inquiétant. La vie est tellement plus complexe. Et voilà, j'ai rencontré une cousine qui avait fait psycho. Et je me suis dit, ben tiens, si j'allais en psycho. Donc je suis partie en psycho à la fac, à Aix-en-Provence. Et j'ai fait 3 ans de psycho. La dernière année, je pense avoir mis les pieds à la fac à peu près 3 heures. Je suis partie en Angleterre bosser pendant 3 mois dans un pub. Parce qu'en habitant à Avignon... Pour aller à Londres, j'étais obligée de passer par Paris. Et comme j'étais amoureuse d'un garçon qui habitait Paris, ça me paraissait évident que pour pas avoir l'air de venir le voir, il fallait que j'aille à Londres.
Voilà. Normal.
Donc j'ai vu ce garçon à Paris. On est allé faire de la barque sur le lac du Bois de Boulogne. C'était très romantique. Mais il ne s'est pas passé grand-chose avec ce garçon. Et puis finalement, j'ai passé mes examens en septembre. Et puis, je suis venue à la capitale, donc à Paris, avec ma valise en carton, comme Linda D'Souza.
Il rêve pour...
c'est ma vraie vie. Non, mais ça, c'est ma vraie vie. Et en fait, toujours à cause de ce garçon dont j'étais toujours amoureuse quand même.
Ah, t'es venue le rejoindre.
Oui. Enfin, okay. Le rejoindre. C'était pas très clair.
Oui. Disons que c'était un but
c'était
comme
un autre. C'était mon projet. Voilà. Et donc, j'ai fait ma valise, en vrai. Et mes parents, et en particulier ma maman, m'a dit « Mais Jeanne, où vas-tu ?» Et je lui ai dit « Je pars à Paris. » Et elle m'a dit « Mais tu reviens quand ?» Et je lui ai dit « Je reviens pas. »
T'avais quel âge ?
J'avais 19 ans. Mais donc j'avais ma licence de psycho
en
poche. Et je suis arrivée à Paris. Et là, j'ai fait des espèces de stages un peu étranges. Et puis... Non, mais c'était des espèces de stages de développement personnel, mais je ne sais pas comment je me suis retrouvée là-dedans. Okay. C'était très bizarre. Mais on était payé 90% du SMIC pour faire ce genre de stage, parce que c'était à une époque où il y avait des lois saugrenues. Enfin bon, c'était un temps comme ça. Et puis, j'ai trouvé une petite annonce dans François, qui est donc un journal qui n'existe plus aujourd'hui. Il cherchait une psychologue.
Chez François ?
Pas du tout. Ah. Dans une boîte. Ah. Et donc, je suis arrivée dans cette boîte. Donc, j'avais à peine 20 ans. Et quand je suis arrivée, le directeur de cette boîte m'a dit « Écoutez, merci beaucoup d'être venu, mais en fait, on a déjà vu 10 psychologues, et ça y est, on a fait notre choix, donc ça va pas être possible. Je lui dis, écoutez, je vais quand même rester un petit peu avec vous, on va discuter de votre proposition. Et à la fin, il m'a dit, bon, très bien, vous allez commencer quand? Et donc, j'étais embauchée sur le champ. Et en fait, ce qui est formidable, c'était...
Pourquoi il t'a embauchée?
Il m'a embauchée parce que j'étais formidable. Il m'a trouvé formidable, Fabrice. Quelle question bizarre.
Je sais pas.
Parce qu'il s'est dit, celle-là, elle est quand même particulière. Il s'est dit, enfin, je sais pas, j'en sais rien en vrai.
Ah
en
ouais?
Vrai, je sais pas.
Tu saurais pas dire?
Je pense que c'est... En fait, j'avais un côté un peu... assertif, comme on dit aujourd'hui, et puis en fait, j'avais pas d'inquiétude particulière par rapport à ce recrutement. J'avais tout à y gagner et rien à y perdre, puisqu'il m'avait dit qu'il avait déjà embauché quelqu'un. Donc finalement, j'ai fait valoir l'intérêt qu'il aurait eu à m'engager moi. Et finalement, c'est ce qui l'a convaincu. C'est-à-dire que j'étais un peu gonflée, on pourrait dire, en fait, un peu, et puis probablement un peu différente. En fait, j'en sais pas exactement. Je lui ai pas demandé. Sur le moment. Et en fait, ce qui était fun, vraiment fun, c'est que c'était un club de rencontres et de loisirs. Alors évidemment, avec toutes les applis, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais c'était un truc en chair et en âme. Et donc, c'était un endroit, ce n'était pas du tout une agence matrimoniale, mais c'était un endroit où, en fait, mon job à moi, c'était de regrouper des profils d'adhérents que je recevais et qui avaient des points communs en termes de personnalité, de centre d'intérêt, etc. Et à ces personnes-là, on leur proposait des sorties, du théâtre, des pique-niques, enfin je ne sais pas très bien quoi, de façon à favoriser le lien en réalité. En fait, c'est très actuel. C'est très actuel.
Bah, tu fais un peu ce que font les applis. Enfin, tu faisais ce que font les applis aujourd'hui, mais les ordinateurs le font. Toi, tu le faisais.
Voilà, moi, je le faisais juste avec mes compétences que je n'avais pas du tout. Hein. J'étais absolument pas compétente, mais je faisais semblant et ça marchait plutôt bien parce qu'en fait, elle le faisait au feeling. Mais j'étais toute petite. Enfin, j'étais toute petite. Déjà, je suis petite de taille, mais j'avais à peine 20 ans. Et quand j'allais chercher les adhérents à la porte, ils pensaient que j'étais la secrétaire. Et après, je m'asseyais derrière mon grand bureau. J'avais un grand bureau avec un grand fauteuil. Et quand les personnes se disaient « Oh là là, mais c'est elle la psy », ça leur faisait bizarre quand même. Mais à moi aussi, ça me faisait bizarre. Hein. J'avais du mal à me mettre dans la peau de la psy à cette époque. Et ça a duré 6 mois. Je me suis bien amusée. Mais très sincèrement, j'étais pas dans le truc. M'occuper des problèmes de ce que je considérais à l'époque du haut de mes 20 ans, de ces vieilles bonnes femmes de 50 ans, parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes exactement aujourd'hui, comme dans les trucs de rencontres via appli et autres. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir à quelle heure allaient passer mes potes pour partir au ski, qu'est-ce que j'allais mettre à la soirée, machin. Et j'étais pas du tout dans le match, en fait. J'avais trouvé ça fun, mais au bout de 6 mois, j'avais un petit copain de l'époque qui avait démarré une formation de communication, mais plus axée sur l'événementiel. Et je me suis dit, oh là là, mais c'est génial, moi, c'est exactement ce que je veux faire. Donc, j'ai plaqué mon boulot et je suis repartie faire des études. Et donc, j'ai eu une deuxième partie de ma vie où j'ai fait des études de com, de marketing, d'événements, et à Paris. Et ensuite, j'ai bossé pendant 12 ans dans la communication événementielle.
Oh, je savais pas.
Eh ben oui, j'ai fait ça, mais j'ai fait des choses de complètement dingues à cette époque. Parce que c'était les années 80, où les boîtes avaient énormément d'argent.
Du fric, ouais.
Énormément d'argent pour faire des choses folles. Moi, avec la personnalité que j'ai évidemment très vite monté, enfin quasiment tout de suite monté une boîte. Donc, j'ai eu l'opportunité, enfin en tout cas, j'ai développé les opportunités d'avoir des gros clients. Donc, je bossais pour des grosses boîtes internationales, pour Lancôme, pour L'Oréal, pour Cartier, pour BMW. Et donc, c'était des boîtes qui avaient énormément d'argent. Et donc, j'ai fait des choses, mais dingues, dingues, dingues. J'ai reconstitué un temple grec au bord du lac de Genève et construit une piste d'atterrissage pour les avions privés des VIP. À l'époque, on n'avait pas de téléphone portable, où on avait Télécom 2000 dans la voiture. Enfin, des trucs de dingue. J'ai fait circuler sur la Seine une BMW sur une péniche complètement réhabillée en miroir pour le lancement d'une nouvelle BMW. j'ai fait des enfin j'ai eu la chance de faire des enfin l'opportunité parce que c'était ces années-là de faire des choses complètement incroyables. J'avais monté un fashion show pour Cartier. Et comme c'est à l'époque où Cartier ouvrait des boutiques dans le monde entier, on faisait des tournées avec un spectacle incroyable, avec un décor. Et on faisait nos spectacles dans toutes les villes du monde. Enfin, c'était vraiment une époque assez dingue. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup amusée. J'ai privatisé la gare de Monaco pour Orlan, en mettant un train de marchandises qu'on avait totalement réaménagé comme des espèces de petits de petits univers avec des pays, avec des ambiances. Enfin, genre, je vois pas comment on pourrait privatiser la gare de Monaco aujourd'hui. Ouais. Enfin bon, donc c'était très fun.
T'as fait ça pendant 12 ans.
J'ai fait ça pendant 12 ans.
T'as monté ta boîte, donc c'est ça.
J'ai monté ma boîte, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai tout dépensé au fur et à mesure. C'était très sympathique. Et sauf que au bout d'une douzaine d'années, j'ai été rattrapée par la question du sens. C'est-à-dire que j'arrivais plus à m'impliquer parce que j'avais un client qui râlait parce que la nappe était pas tout à fait le bleu désiré ou parce que il y avait un invité qui n'avait pas pu mettre ses pieds sur le tapis rouge parce qu'il y avait quand même 3 cm carrés où il y avait pas de tapis et que c'était un scandale. Et j'étais rattrapée par le sens. Je me suis dit, mais non, je peux pas dépenser ma santé physique parce que bon, faire ces métiers-là, c'est quand même énormément de stress, ma santé psychologique et finalement mes compétences, quelles qu'elles soient aussi, enfin peu importe lesquelles, à mettre toute cette dynamique pour des choses finalement qui tout d'un coup m'apparaissaient totalement superficielles. Pour qu'on vende plus de bijoux, plus de voitures, plus de parfums, non, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus, mais ça a été très compliqué parce que j'étais associée, j'avais une boîte qui fonctionnait, j'avais des salariés, et que c'est assez compliqué d'arrêter une boîte qui tourne.
Tu peux pas arrêter du jour au lendemain.
Non, non, parce qu'on avait beaucoup d'engagement, et puis je me sentais, enfin moi j'ai une valeur très très forte dans la vie qui est la valeur de l'engagement, et c'était très compliqué pour moi de laisser tomber mon associé, très 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 douloureux, à tel point que je me suis quand même défilée et que c'est Alain, mon mari, qui est allé voir mon associé en lui disant, mais en fait, je me suis planquée derrière la grossesse de mon dernier fils. Jeanne est enceinte, Jeanne vient d'accoucher, Jeanne est en congé maternité. Et puis à un moment, je ne pouvais plus. Donc il fallait que je dise quelque chose, mais je ne pouvais pas parce que mais physiquement, je ne pouvais plus aller bosser. Alors ça ne s'appelait pas encore un burn-out, et je ne crois pas que c'en était un d'ailleurs, mais je ne pouvais plus, je n'arrivais plus à m'investir, j'avais des angoisses vraiment, en me disant je ne peux plus faire ça, je ne peux plus physiquement, je ne peux plus psychologiquement, je n'ai plus aucune bande passante pour faire ça, alors que vraiment je m'étais beaucoup amusée et que j'avais fait des choses formidables et que je garde un souvenir extraordinaire de cette période, vraiment, j'ai vraiment des tas d'opportunités, mais tellement sympas. J'ai tellement voyagé dans des conditions folles. Enfin, c'était vraiment bien. Mais c'était plus possible. Mais mon objectif, c'était de m'arrêter. C'est-à-dire, j'avais pas de projet. Et puis après, très vite, j'ai voulu être juge pour enfants.
Ah ouais?
Ouais. Donc, il y avait quand même quelque chose. J'ai voulu être juge pour enfants. Et à cette époque-là, il y a une trentaine d'années...
Il y avait des ponts possibles?
C'est-à-dire qu'en fait, il manquait cruellement de juges en France... Et il y avait une possibilité, à partir du moment où tu avais un CV suffisant, ce que j'avais, parce que moi j'avais déjà je ne sais pas combien d'années d'études supérieures, où tu avais une expérience professionnelle suffisamment solide, ce que j'avais, tu pouvais postuler et tu faisais 6 mois à l'ENM, l'École nationale de magistrature à Bordeaux. Tu étais stagiaire pendant 6 mois chez un juge et tu étais nommé juge, ce qui était magique. Tu vois, moi, j'avais 30 ans.
Reconversion en 1 an, quoi.
Oui, tu avais une reconversion en 1 an. Donc, j'envoyais tous mes dossiers, tout était nickel, sauf que l'administration française étant ce qu'elle est, j'étais née 15 jours trop tard par rapport au... Tu vois, ils prenaient des gens entre telle année et tel jour de l'année et tel jour de l'année, et 15 jours trop tard, eh ben, mon dossier n'est jamais passé. Donc, je n'ai pas pu faire ça. Et donc, pendant 4 mois de ma vie, 5 mois de ma vie, et ça a été les 5 seuls mois... Je n'ai rien fait. Rien. Enfin, j'avais quand même un bébé de 2 mois. Mais bon, je n'ai rien fait d'autre que ça. Et...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
J'ai pas du tout aimé d'ailleurs hein, cette période. Je précise.
Comment tu fais le pont avec la psycho ?
Eh ben parce qu'en matin, parce qu'en fait, je me suis commencé à m'intéresser à. En fait, non. Je vais être très honnête. En fait, j'ai lu ce livre que tout le monde espère a lu et que tout le monde doit lire, qui est Le Parfum de Suskind. Et j'étais fascinée par cette histoire, comme des millions de personnes qui ont lu ce livre. Et je me suis dit, c'est formidable l'odorat. Avec l'odorat, on devrait pouvoir retrouver les souvenirs de quand on est tout bébé et de pouvoir remonter à des souvenirs très archaïques. On en a discuté avec Alain, on a commencé à élaborer des pensées autour de tout ça. Et puis un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, bah tiens, et si je repartais en psycho ? Et donc c'est comme ça. Et donc ça m'a pris genre fin septembre. Évidemment, toutes les inscriptions étaient closes. Évidemment, j'avais jamais retiré mon diplôme à la fac d'Aix, qui évidemment était archivé au fin fond de caves inaccessibles. Évidemment, j'ai trouvé des solutions. Évidemment, j'ai fait des pieds et des mains pour néanmoins être acceptée à la fac à Nanterre. Et donc je suis repartie en psycho. En n'ayant plus aucune notion, parce que pour moi, la psycho, c'était comme le lycée, c'est-à-dire que j'avais plus aucune... Enfin, d'abord, il s'était passé 15 ans quand même, donc en 15 ans, en psychologie, ça va vite. Mmh. Moi, quand j'ai fait mes études, Lacan était encore vivant, Piaget était encore vivant, enfin, c'était très, très différent. Et donc, je suis arrivée à la fac, mais c'était magique, parce que moi, j'arrivais d'un monde professionnel où on brassait beaucoup de budget, beaucoup d'argent. Moi, j'étais en rendez-vous toute la journée avec des grands patrons à négocier des gros budgets. J'avais des grosses équipes que je faisais tourner. Et je suis arrivée à la fac, j'ai dit à Alain, donc toujours mon mari, qui est quand même mon partenaire de vie privilégié, à qui j'ai dit, mais on va à la fac comment, en fait ? Je savais pas s'il fallait que je prenne un cartable, un papier, un bloc, un stylo. Donc, je suis partie à la fac avec un bloc Rodia et un stylo Bic et je me suis installée au premier rang devant la chaire comme ça, donc avec le cou cassé, à regarder ses profs et je notais avec ma mémoire auditive parce que je ne comprenais pas un mot de ce que ses profs disaient,
mais
pas
un mot. Parlait dans l'ampli
pas du tout, parce qu'ils parlaient de choses que je ne comprenais pas.
Okay.
Au niveau du contenu des cours, je ne comprenais pas. C'était du charabia pour moi. C'est comme si tu me mettais demain dans un cours, j'en sais rien, moi, de je sais pas très bien de quoi, parce qu'aujourd'hui, j'ai du mal à me représenter ce que je pourrais pas du tout comprendre, mais sûrement des milliards de choses. Mais je comprenais pas un mot. Donc, je notais les mots, mais je ne comprenais pas le sens de ce qui était dit. Et puis, tout de suite, il fallait choisir un directeur de mémoire. Donc, chaque directeur de mémoire faisait une espèce de show pour expliquer sur quel projet de recherche il travaillait, quel était l'intérêt pour les étudiants, etc. Et puis, donc, je comprenais rien, de toute façon, mais rien. Et dans tous ces profs-là, qui en avaient, je ne sais pas, une quinzaine, j'ai vu des grappes entières d'étudiants se ruer vers certains profs. Et un homme... qui faisait peur à tout le monde, visiblement, tout seul. Je me suis dit, ben, de toute façon, j'y comprends rien. Donc, j'allais avec lui ou n'importe qui d'autre, c'est pareil. Donc, je suis avec lui parce que je savais, parce que c'était pareil pour moi. Tout était identique. Et je me suis retrouvée 2 jours après à l'hôpital de la Salpêtrière parce que cet homme pour lequel j'ai aujourd'hui une admiration sans borne, qui est le professeur Bernard Gibello, avait un laboratoire de recherche sur le fonctionnement cognitif et intellectuel et les troubles du fonctionnement cognitif et intellectuel. Et donc, il faisait un travail de recherche qui s'appelait « Psychopathologie des fonctions cognitives ». Je ne comprenais pas le premier mot, le deuxième mot, le troisième mot, le quatrième mot. Je ne savais pas du tout de quoi tout ça parlait. Et donc, tout le monde avait peur de ce prof. Donc, on s'est retrouvés au labo. On était 12 rescapés qui n'avaient pas pu aller avec les autres plébiscités. Et moi, donc, était là par hasard. Et il a commencé à faire le tour des gens pour des étudiants pour leur demander pourquoi ils étaient là. Donc chaque étudiant sortait une théorie un peu sophistiquée pour expliquer pourquoi. Chaque fois, Bernard Gibello les renvoyait dans leur je sais pas comment on dit ça, on les renvoie dans leur but ou dans leur camp, enfin bon bref. En tout cas, les engueuler. Avec... Clairement, oui, en disant, mais qu'est-ce que c'est? Mais ça veut rien dire, mais vous avez rien compris. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous avez fait de... Enfin, bon, bref. Et quand c'est arrivé à mon tour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux dire à cet homme? Et donc, la seule chose que j'ai trouvé à lui dire, c'est, en fait, je vous ai choisi parce que vous aviez une bonne tête. Et là, les autres étudiants m'ont regardé en disant, elle va se faire fracasser. Et le professeur Gibello m'a regardé en me disant, bah, ça, c'est un très bon argument. Et de ce jour-là, ça a été une histoire d'amour jusqu'à ce jour, avec cet homme qui était un véritable génie de la psychologie, qui était professeur de psychologie, il était professeur de psychiatrie, il était psychothérapeute. Et c'était quelqu'un d'absolument exceptionnel, qui ouvrait en permanence des voies, des chemins, des idées, qui était très intégratif, comme je le revendique aujourd'hui d'ailleurs, c'est-à-dire qui ne s'enfermait jamais dans un courant de pensée, mais qui nous invitait constamment à aller explorer d'autres voies. Alors on y allait ou on n'y allait pas, hein. Après chacun était libre, mais bon, moi j'ai adoré ça et ma curiosité m'a poussée à tout explorer ce qu'il proposait. Et puis c'est là que j'ai rencontré tous ces enfants, et adolescents plutôt, qui venaient au laboratoire parce qu'à la fois ils étaient dans des souffrances et des difficultés scolaires inextricables, mais surtout dans des douleurs psychologiques lourdes, et que dans ce labo, puisqu'on était un labo de recherche, on faisait des explorations très approfondies du fonctionnement intellectuel. Et en fait, dans cette première période, quand petit à petit je commençais à comprendre ce qu'on faisait, je m'étais dit que j'allais m'intéresser à la déficience intellectuelle, puisque de façon naturelle dans mon cerveau, c'était ceux qui avaient besoin. Et à force de rencontrer des ados avec des scores très élevés sur les échelles d'intelligence et qui pour autant étaient dans des difficultés, mais dramatiques pour certains, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment on peut avoir cette intelligence puissante, intense et très largement au-dessus de la moyenne et en même temps être dans des souffrances inextricables comme ça? Et c'est comme ça que mon intérêt pour cette population de surdoués, au potentiel, zèbres, enfants précoces, quel que soit le nom qu'on donne à cette population, est né chez moi par la souffrance, en fait, par ces ados que j'ai rencontrés là. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je comprenne. Et donc, j'ai fait des recherches, moi, sur ce sujet-là. Il n'existait quasiment pas de littérature française, en tout cas. Donc, voilà. Donc, après, c'est comme ça que ça a démarré pour moi. C'est comme ça que j'ai cherché. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier bouquin sur le sujet. C'est comme ça qu'ensuite, j'ai reçu, après, parce qu'après, j'ai monté simultanément avec le... Je travaillais à l'hôpital, mais je travaillais aussi à... Ah oui, j'ai oublié cette anecdote absolument dingue. Parce que quand même, comme j'ai quand même un peu de suite dans les idées... J'ai fait un mémoire avec donc cet homme formidable de Bernard Gibello qui a accepté que je fasse un travail de mémoire sur la psychopathologie. Alors là, maintenant, je comprenais ce que ça voulait dire. Ça voulait dire les troubles psychologiques, en fait. Donc, la psychopathologie des troubles de l'odorat.
Ok, donc pour revenir à ta...
À mon idée initiale. Et donc, en fait, comme il n'existait rien en France sur le sujet... J'ai fait fabriquer un test de discrimination olfactive par un laboratoire de recherche neurosensoriel de Lyon, dans un test de grattage avec des odeurs différentes. Et j'ai monté une consultation psycho-olfactive à l'hôpital Avicenne à Bobigny, dans un service ORL, avec un médecin ORL, enfin dans un service, donc il y avait un patron ORL, mais je travaillais avec un médecin ORL qui faisait une première consultation pour s'assurer qu'il n'y avait aucune pathologie ORL qui pouvait expliquer un trouble de l'odorat, c'est-à-dire soit une anosmie de plus sentir aucune odeur, soit une dysosmie, c'est-à-dire tu sens on te présente une rose, mais tu sens l'odeur d'un camembert pourri, par exemple, donc il y a comme ça des déviations olfactives, soit une hyperosmie, c'est-à-dire à l'inverse, de trop sentir les odeurs et d'être complètement perturbé. Enfin, j'ai reçu des patients, par exemple, qui étaient complètement entortillés dans des écharpes avec des masques parce qu'ils supportaient pas l'odeur dans les métros, par exemple. Et donc, j'ai monté une consultation psycho-olfactive où à la fois, je faisais mon test d'olfaction pour avoir un degré de sensibilité olfactive et où je faisais des tests psychologiques, donc des tests de QI et des tests de personnalité. Et puis, tout un entretien pour comprendre le parcours de la personne, pour voir si je trouvais un lien entre le trouble de l'odorat annoncé, alors qu'il n'y avait pas de pathologie olfactive, il n'y avait pas de trouble de l'odorat, il n'y avait rien. Mais les personnes n'avaient plus d'odorat ou avaient un odorat particulier. Et une construction psychologique ou des scores d'intelligence. Et c'est là que mon premier travail de recherche a permis de montrer qu'il y avait des corrélations positives. Plus on était intelligent, plus on avait un odorat développé, et que les troubles de l'odorat étaient significativement corrélés avec des difficultés psychologiques particulières. Donc voilà, donc j'ai fait ça pendant un certain temps, en même temps que de travailler donc avec Gibello à la Salpêtrière sur les fonctions intellectuelles et ces recherches-là, et en même temps donc j'ai monté par ailleurs un cabinet pour travailler aussi moi avec des patients en particulier. Donc voilà, donc j'ai fait une espèce de melting pot de l'ensemble, de mosaïque de l'ensemble de tout ça, et c'était génial. Et puis c'est là où je me suis dit, il faut créer un centre avec, pas multidisciplinaire justement, un centre de psychologie, et voilà. Et puis c'est comme ça que j'ai écrit mon premier bouquin, comme je le disais, sur les enfants surdoués, et puis c'est comme ça que... Et puis c'est comme ça que après j'ai rencontré évidemment plus on s'intéresse à un sujet, c'est comme quand on achète une voiture rouge, on voit plus que des voitures rouges. Quand on s'intéresse à un sujet, après par la force des choses, on voit de plus en plus de personnes qui correspondent à ce profil-là. Donc plus j'ai vu d'enfants qui avaient ces profils-là, d'adolescents, et puis bien évidemment les enfants et les ados ils viennent avec leurs parents. Et quand je faisais des comptes rendus de bilan aux enfants et aux ados, je voyais des pères ou des mères qui s'effondraient en larmes, qui me disaient « mais en fait, vous parlez de moi, vous parlez de ma vie ». Et en fait, petit à petit, j'ai regardé ces adultes en me disant « mais bien sûr ». C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire quand même, c'est qu'ils ne m'étaient jamais traversé l'idée que forcément, quand on était un ado, enfin un enfant et un adolescent surdoué,
on devenait
un adulte. Et qu'on avait, on gardait ces mêmes caractéristiques. Mais c'était un sujet que personne ne connaissait à ce moment-là. Il n'y avait aucun bouquin, aucun article scientifique, rien, mais rien.
Donc là, on est au début des années 2000, c'est ça que tu dis ?
Là, on est... premier livre, il est sorti en 2002 sur l'enfant surdoué. Ouais. Et mon livre sur les adultes surdoués est sorti en 2008. Donc il y a 11 ans, c'est pas si vieux, hein. C'est pas si vieux. Et en fait, ce que j'ai fait pour écrire ce livre, parce que j'avais pas encore de patients adultes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des groupes avec les parents qui se reconnaissaient. Ensuite, j'ai fait des bilans gratuitement, d'ailleurs, avec tous ces adultes-là pour pouvoir avoir des groupes de surdoués qui étaient donc... C'est important parce que ils n'étaient pas pathologiques, ils n'étaient pas consultants, ces adultes-là. C'était des adultes tout venant. Ils se reconnaissaient dans ce que j'expliquais pour leur enfant, mais eux, ils n'avaient pas de difficultés particulières, en tout cas pas de difficultés clairement identifiées. Et c'est comme ça que j'ai écrit le livre « Trop intelligent pour être heureux » pour l'interrogation sur l'adulte surdoué. C'est comme ça. Et alors après, évidemment, les effets boule de neige existants, bien sûr, j'ai vu de plus en plus d'adultes en consultation, et ce qui m'a permis d'affiner ma compréhension, ma clinique et mon expérience autour de cette population. Mais le centre que j'ai créé, donc Cogitose, c'est pas du tout un centre dédié à ça. C'est vraiment un centre généraliste pour tous les enfants, pour tous les ados, pour tous les adultes, donc aujourd'hui, qui peuvent avoir n'importe quel grain de sable sur leur chemin et difficultés psychologiques, quelles qu'elles soient.
C'est le moment de faire peut-être une petite aparté intelligence et douance, et parce que c'est toi qui as inventé le terme zèbre.
Oui, alors oui, bien sûr, c'est moi. Non, mais c'est moi, bien sûr. Mais ça m'amuse toujours quand on me dit inventer, c'est-à-dire qu'en fait, je ne l'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que, pour être là encore très honnête, en fait, c'est parce que je travaillais avec un collège où ils avaient ces enfants avec ces profils qu'on appelait à l'époque des EIP, pour enfants intellectuellement précoces. Et dans toutes ces réunions avec les profs et la direction, ils parlaient des EIP, des EIP, des EIP, avec ce Z toujours en avant. Et je me suis dit, bon, on va arrêter avec ces EIP, c'est horrible. On n'a qu'à les appeler des zèbres, ça sera plus sympathique. Et puis on dit les drôles de zèbres. Et puis les zèbres, ils se différencient dans la savane. Et puis peut-être que tu sais que les rayures d'un zèbre sont uniques, comme les empreintes digitales. Et puis quand un zèbre court vite, ça fait un effet stroboscopique, on ne le voit plus. et puis un zèbre, ça peut pas vivre sans sa tribu. Mais tout ça, je l'ai découvert après. Le jour où j'ai dit à, dans cette école, on va les appeler des zèbres, j'avais aucune idée en tête et j'avais pas encore écrit mon livre. Et donc, dans mon premier livre, L'enfant surdoué, j'ai fait 3 lignes en disant, et puis finalement, moi, j'ai décidé de les appeler les zèbres parce que c'est plus sympathique et toute cette terminologie de précoce, de surdoué est désagréable. Et le grand public s'est emparé de ce terme. Donc maintenant, quand on me dit j'ai inventé, en fait, j'ai rien inventé du tout. Enfin, oui, c'est moi qui ai introduit.
Voilà.
C'est moi qui ai introduit ce terme. Mais je veux dire, c'est, ça n'a pas été. Je ne me suis pas pris la tête en me disant tiens, comment je pourrais les appeler. Enfin, ça s'est fait hyper spontanément. Donc, okay. Quelquefois, quand je vois sur des blogs, sur des forums, des gens qui disent oui, mais pourquoi les zèbres ? Mais de toute façon, les zèbres, ceci. C'est assez marrant parce que la maternité, en l'occurrence, j'allais dire la paternité, comme quoi, dans nos sociétés, on est très marqués par les hommes, a complètement disparu au fil du temps, mais peu importe, enfin, ça m'est complètement égal.
Ok. Pour dire aussi un petit peu, tu parlais tout à l'heure de tout l'aspect d'intelligence, de surdoué, etc. Il y a souvent des idées reçues un peu à côté de la plaque par rapport aux enfants surdoués. Et tu disais qu'ils étaient toi-même. Tu n'arrivais pas à comprendre la liaison entre le fait que ces enfants soient intelligents et le fait qu'ils soient
en difficulté. Oui, oui.
Pourquoi ?
Bah, c'est-à-dire que, en tout cas, moi, je suis entrée par la souffrance et par la difficulté. Ça ne veut pas du tout dire que tous les enfants surdoués ni que tous les adultes surdoués sont en souffrance et en difficulté. Enfin, j'insiste bien là-dessus. Pourquoi ? Bah, parce qu'il y a forcément des paradoxes. Parce que quand on est très intelligent, on a aussi un niveau de conscience très élevé. Quand on a un niveau de conscience très élevé, on a une lucidité singulière. Et quand on a une lucidité singulière, on se pose des questions que tout le monde ne se pose pas forcément. Donc, qu'on ait 6 ans ou qu'on ait 56 ans, eh bien, la nature des questions change, mais les doutes et les inquiétudes que ces questions engendrent peuvent générer de vrais troubles et surtout un vrai sentiment de décalage et de différence par rapport aux autres. Quand on a 6 ans et qu'on se pose des questions sur le sens de la vie, de la mort et sur des questions très philosophiques, et plutôt que s'intéresser aux préoccupations et aux jeux d'un enfant de cet âge, ou quand dans une entreprise à 50 ans on va se préoccuper de sujets dont aucun des collaborateurs ne semble être sensibilisé, ça devient compliqué parce que c'est un peu comme le conte d'Andersen avec le vilain petit canard. C'est que finalement ce sentiment de décalage est ressenti aussi par les autres, donc ça peut générer une forme d'agressivité, ça peut écorner complètement la construction de l'image de soi, et tant qu'on ne sait pas qu'on est un signe, on est dans une espèce de souffrance indicible, parce que dire quoi et dire comment, puisque même soi-même, on ne sait pas qu'on a cette différence-là. Alors moi qui avais travaillé justement, et c'est très intéressant comme parallèle avec les personnes anosmiques, celles qui n'ont pas d'odorat, quand tu n'as pas d'odorat, tu ne sais pas que tu n'as pas d'odorat, et tu ne sais pas que les autres sentent, et tu ne sais pas ce que c'est une odeur, parce que tu l'associes avec un autre sens. Tu vas dire c'est doux, c'est chaud, parce que ça, tu peux le ressentir. Et tu peux mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de comprendre que tu n'as pas l'odorat comme les autres. En fait, et ça c'est Gibello entre autres qui nous l'a beaucoup appris, on est tous pris dans l'illusion de la pensée commune et on a toujours l'illusion que les autres pensent, ressentent et comprennent comme nous. Et quand tu comprends toujours les choses parce que tu es surdoué, zèbre, haut potentiel, autrement, quand tu ressens avec forcément des sens très aiguisés, parce que l'intelligence ne peut pas aller sans sensibilité, parce que la sensibilité c'est l'intelligence perceptive et l'intelligence ça passe par les sens, et ça a été beaucoup confondu aussi avec uniquement la sensibilité émotionnelle, mais la sensibilité c'est finalement vibrer avec le moindre murmure du monde, c'est être en permanence en prise avec ses 5 sens, avec ce qui se joue dans l'environnement, avec les autres, mais aussi au creux de soi-même. Et ça, ça peut être l'objet de beaucoup de difficultés d'ajustement à l'école, parce que après il y a aussi des questions de tempo. Quelquefois à l'école ça va trop lentement, ou ça passe par des répétitions qui vont user la motivation de l'élève surdoué, qui vont le conduire à décrocher, à s'ennuyer, et donc à développer certains troubles du comportement, à bouger, à faire autre chose, et ça va être pointé du doigt par les profs, et les difficultés vont s'annoncer. Mais même après, dans une entreprise, quand tu bosses avec des collègues de travail ou même une hiérarchie où tu vois les choses autrement, où tu vas plus vite dans ta tête, ou au contraire, tu t'attaches à un point précis parce que ça te paraît archi important et tout le monde a balayé ce point-là, alors que toi, tu sens au fin fond de toi que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas passer si vite dessus. Donc, il y a des décalages de tempo qui peuvent être insupportables. Et tant que tu n'as pas cette visibilité que c'est parce que tu as un autre fonctionnement, eh ben, ça peut créer des ruptures, des ruptures avec les autres, des difficultés relationnelles. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'adultes surdoués qui avaient eu énormément de difficultés à s'intégrer dans les entreprises à cause de ces histoires de tempo et de se sentir trop en décalage. Et puis, justement, je dis trop, mais souvent, surtout les adultes, les jeunes adultes et les adultes plus mûrs, ont beaucoup entendu ça. Tu es trop excessif, tu es trop sensible, tu vas trop vite, c'est toujours trop, mais trop par rapport à une norme. Parce que forcément, quand on est surdoué, au potentiel, zèbre, une fois encore, peu importe le nom, on a une intelligence en plus, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus que les autres, mais cette intelligence en plus, ça va créer à la fois pour soi et pour les autres des différences de vitesse. Parce que là aussi, on le sait aujourd'hui, justement, neurobiologiquement, on connaît les différences au niveau du cerveau. Quand on est surdoué, ça va plus vite, on capte plus vite les informations de l'extérieur qui arrivent plus vite dans le cerveau. Dans le cerveau, les informations sont traitées plus vite, la mémoire est plus solide et s'active beaucoup plus rapidement. La transmission des informations est beaucoup plus congruente. Enfin, il y a les gaines de myéline les gaines de myéline, c'est la substance blanche, c'est ce qui entoure les axones des neurones, et il y a plus de substances blanches dans les cerveaux des surdoués. C'est pour ça que ça va plus vite aussi, c'est pour ça que l'information circule à très grande vitesse. Et donc tout ça, on le sait aujourd'hui. On le sait qu'il y a des différences de traitement des informations au niveau du cérébral, donc c'est pas une vue de l'esprit. De la même façon qu'on sait que de l'autre côté de la courbe, quand on est déficient, quand on a un retard mental, le cerveau n'organise pas les informations de la même façon. Donc il y a une logique à tout ça. Et donc ça peut créer des turbulences. Alors pour certains enfants, certains ados, certains adultes qui ont finalement... Ce qui fait la différence dans le fond, en tout cas moi, mon expérience et ce que j'ai pu en discuter avec d'autres professionnels ou des personnes concernées, ce qui fait la différence finalement entre celui qui va pas bien et qui va être amené à consulter, à se poser des questions, et celui qui finalement a traversé la vie sans encombre et s'est jamais posé la question, parce qu'il y a certains surdoués qui ne sont jamais posé la question, c'est finalement, et ça paraît... enfoncer des portes ouvertes, mais c'est ça qui est magique en psychologie, on enfonce beaucoup de portes ouvertes, et il faut l'assumer, c'est que finalement, ceux qui vont bien, ben c'est ceux qui ont été entourés affectivement, familialement, de repères solides, qui ont toujours été compris et entendus pour ce qu'ils étaient, sans qu'on attende d'eux des choses particulières, donc qui ont pu toujours vivre en fonction de ce qu'ils étaient, ou à l'école, finalement, pour des tas de raisons, l'école a pu, et eux-mêmes ont pu s'ajuster aux attentes de l'école, et finalement, ils se sont débrouillés des études supérieures et des parcours, même si ça leur convenait pas tout à fait, comme ils allaient bien, eh bien, finalement, ils ont fait avec, et puis ils ont pu déployer des vies qui leur convenaient, et puis finalement, on a moins de visibilité sur eux, parce qu'ils vont bien. Alors, même si aujourd'hui, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à travers les enfants, il y a une curiosité quelque part de la part des adultes, et on voit de plus en plus d'adultes qui viennent faire des bilans simplement pour avoir cette visibilité, pas parce qu'ils sont en souffrance, pas parce qu'ils ont des difficultés. Et ça, c'est très bien pour nous, les psys, parce que ça nous permet d'avoir aussi une forme d'échantillonnage d'adultes qui vont bien, qui ont des vies qui leur convient bien, et qui se posent des questions à travers leurs enfants ou à travers ce podcast que tu fais ou à travers un article qu'ils ont lu, et ils se disent, tiens, mais finalement, il y a quand même des choses qui me ressemblent, ça m'intéresserait de savoir. Donc il y a un lien. Donc, ce n'est pas que l'intelligence, même si Maurice Blanchot disait... Maurice Blanchot, c'est un philosophe et qui disait, est-ce que l'extrême intelligence et l'extrême souffrance ont des liens? Est-ce que être très intelligent ferait finalement souffrir? Ou comme René Char, qui est un poète et qui disait, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Donc, on voit bien ce que ça peut générer, évidemment, comme souffrance. Souvent, les surdoués sont assez... Enfin, pas tous, évidemment, j'aime pas faire des généralités, mais ils ont quand même ce côté très touchant, d'ailleurs, mais d'écorcher vif, parce que tous les touches, tous les blesses, tout est important. La moindre broutille va devenir un cataclysme émotionnel. La moindre petite chose va prendre de l'importance à leurs yeux. Parce que ça fait un peu un effet loupe en réalité. L'intelligence, ça fait un effet loupe sur le monde. Et quand on voit ce que les autres ne voient pas, quand on entend ce que les autres ne perçoivent pas, quand on comprend ce qui n'a jamais effleuré l'esprit des autres, quand on ressent dans son corps, dans son cœur, des émotions qui ont été éphémères pour tout un chacun, eh bien, par la force des choses, quelquefois, c'est plus compliqué, la vie. Mais en même temps, c'est plus intense. Donc, c'est plus dense. Ça, c'est aussi beaucoup de puissance. C'est ni bien ni mal, c'est juste pas pareil.
On arrive au bout de notre temps imparti. Où est-ce que les gens peuvent te suivre ? Facebook ?
Je vois régulièrement. Me suivre dans la rue ou... Parce que non, merci. Hein. J'y tiens pas particulièrement.
Sur l'Internet, tu sais, ce truc-là qui existe.
Ce truc bizarre. Oui, oui, bien sûr, j'ai une page Facebook. Je suis à peu près partout sur les réseaux sociaux.
On mettra plein de
et
liens.
Puis, voilà, et puis on a un site, et puis plein de choses. Et puis il y a mes bouquins. Et puis aujourd'hui, mon grand cheval de bataille, c'est plus tout à fait ça, même si bien sûr, ça reste dans mon spectre d'intérêt, mais c'est vraiment donner à la psychologie un coup de fouet et ça suffit d'être dans cette psychologie de l'archéologie de la souffrance.
Ah oui.
Et je pense très intéressant et surtout très indispensable d'aller vers la psychologie des ressources. On a tous des ressources et on peut évidemment tout spontanément plutôt voir le verre à moitié plein parce qu'on est câblé au niveau neurobiologique comme ça pour voir les dangers. Mais on peut aussi s'entraîner et apprendre à voir, j'ai dit à moitié plein, non, à moitié vide, pour la sécurité, on est câblé pour voir plutôt les choses négatives.
Okay.
C'est pour ça qu'on voit d'abord les trains en retard, tout ce qui ne va pas, etc. Et que pour voir les choses qui vont bien, il y en a forcément beaucoup dans nos vies et dans nos journées, même quand les choses ne vont pas bien dans nos vies, il y a toujours des choses qui vont bien. Mais ça demande un effort cognitif, ça demande un entraînement. Et moi, je crois que la psychologie doit beaucoup accompagner les personnes vers le plein accomplissement et qu'on n'est pas obligé d'aller parler pendant des heures du doigt dans la confiture, on se fait attraper par sa grand-mère, on s'est senti si coupable et considérer qu'aujourd'hui on se sent coupable à cause de ça et que si on n'avait pas vécu ça, enfin, toujours considérer que c'est la faute des autres et la faute de la vie qu'on a eue. Non, on est tous responsables de la vie qu'on a aujourd'hui.
Waouh. Et ça, c'est pas un discours qui est très très répandu, j'ai l'impression, non ?
Non, non, c'est un voilà, j'ai
un nouveau pavé dans
voilà,
la mare.
Voilà, c'est un nouveau. En tout cas, c'est vraiment la chose qui est, c'est vraiment ce qui m'anime vraiment aujourd'hui, parce que je pense que tout le monde a besoin d'être à un moment ou à un autre éclairé. On va plus voir un psychologue parce qu'on a peur d'être fou, et les psychologues sont vraiment des relais de vie extrêmement importants, et que je crois que on peut aller voir un psy quand on a des questionnements, quand on se pose des questions sans forcément attendre d'aller mal ou de tomber malade, parce que les psychologues, ils ont les ressources eux-mêmes de compétences pour mieux comprendre certains processus et que chacun doit pouvoir s'en emparer et qu'il n'y a aucune raison que ça reste dans le cabinet des psys. Et moi, je suis pour une psychologie du quotidien, une psychologie pour tous et accessible à tous.
C'est notamment le thème de ton dernier bouquin, si je
me trompe
pas, c'est
ça ? C'est le thème de mon dernier bouquin, « S'il te plaît, aide-moi à vivre » pour une nouvelle psychologie.
Merci, Jeanne.
Merci à toi,
c'était
Fabrice.
Salut.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.